Salut tout le monde, c'est Redis Back sur les 101.5 de Radio G à Angers.
Salut à toutes, salut à tous, c'est Redis Back sur les 101.5 de la bande FM et sur le www.radio-g.fr. Redis Back, émission de ska, de punk, de fête et de lutte aussi, c'est tous les mercredis sauf quand on est malade.
Exactement. Voilà. Ah ouais, mais ça on n'y peut rien, là c'est le retour là.
Tout à fait.
Et on a Numa avec nous salut. Ce soir.
Salut.
Eh oui, et du coup, C'est le troisième larron qui est moins en forme cette fois-ci.
Ouais.
Bon, ça se voit pas, ça s'entendra non, peut-être pas
ça
non plus.
Ça s'entendra peut-être.
Ça se voit pas.
Ouais. Ah, tu parles un peu du nez quand même.
Et du masque aussi. Ouais. Bref, alors Redis Back, émission de ska, de punk, de fête, de lutte aussi. Alors le ska, on va recommencer tout de suite. On va revenir sur peut-être des concerts qu'on a vus. Le punk, ce sera un petit peu retour aussi sur un concert de ce week-end. Et ce sera aussi du hardcore en deuxième partie d'émission.
C'est ça.
C'est ça. Hein.
C'est ça. Ça sera une petite chronique sur les tout débuts du punk hardcore en France. Voilà. Début des années 80.
Ok.
Ok, on commence donc avec le vieux son jamaïcain. Ça n'a rien à voir avec le hardcore, mais pourquoi pas? Mais si, il y a toujours un lien musical. En tout cas, dans cette émission, on commence avec le son jamaïcain. On commence avec l'artiste de la semaine, qui était déjà de la semaine dernière, mais bon. Ce sera The Ethiopians. Alors, un groupe jamaïcain, des groupes les plus, je dirais, vocaux, les plus influents de la Jamaïque. Alors, au début, il y a un trio. Alors, Leonard Dillon, Stephen Taylor et Aston Morris, en fait, qui ont fait un peu une sorte de transition entre le ska et le rocksteady. Et mais avec quelques paroles Rastafari de Dillon qui ont un petit peu ouvert une sorte de voie à l'ère du reggae roots. Ce groupe a été formé en 1966. Et après, avec Taylor et Morris, Morris est parti. Ensuite, ça a été un duo, donc avec Dillon et Taylor. Et un des morceaux les plus connus, c'est le fameux Twain to Scaville.
Tout à fait.
Après, il y a eu The Whip, il y a eu Engine 54, voilà, j'étais en train de chercher. Et en fait, ils ont aussi collaboré avec Sir Gigi Johnson sur notamment des morceaux comme le fameux Everything Rush.
Eh ben, ça tombe bien parce que justement, on va s'écouter ce titre-là, sorti d'une compilation qui s'appelle The Ethiopians from Jamaica, Sir Gigi Johnson, donc. and Friends et ses amis. Des morceaux enregistrés entre 1968 et 1973. Et je voulais rajouter, oui, et fait quand même assez, on l'avait déjà dit, mais fait assez marquant. Les Jamaïcains parlent beaucoup de train, mais il faut savoir qu'il n'y en a pas en Jamaïque.
Ouais, non, il n'y a pas de train. Mais il y a les pieds, par contre, pour se déplacer, ouais. Pour les plus pauvres notamment.
Ok, bah, du coup, on s'écoute Everything Crash. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Hein. Ça part grave en sucette. Hein.
Look at now, everything crashed. your heart and all the love that is in it.
She
Jamaïcain, donc sorti en Jamaïque, studio. Ah,
si tu veux juste répéter
Ce que j'ai dit.
Voilà. Et puis, okay. Et puis Numa, c'est pareil. Si tu veux en fait changer de micro, si tu veux prendre du coup maintenant le rouge. Mais tout à l'heure on t'a entendu, il y a pas de souci.
D'accord. Ouais. Je disais que c'était The Ethiopians avec le morceau Freeman, sorti chez Studio One, une date non datée, donc peut-être 1966 avec un point d'interrogation. Et ce qui est marrant, c'est sur le 45, au lieu d'être écrit Ethiopians, c'est écrit E-C-O avec un E-O-P, enfin une écriture chelou. Bon, voilà. Et c'est ça qu'on aime bien avec les 45 tours, ouais. Les singles jamaïcains, surtout de l'époque. On revient sur la petite playlist. Juste avant, c'était écouter la belle voix de Madame ou Mademoiselle Suzanne Cadogan, qu'on a pu voir il y a 15 jours du côté de Folkestone in UK. Et cette fois-ci, elle était accompagnée de The Magnetics, un groupe italien. Elle interprétait le morceau In the Ghetto. Et c'était en 2019. Et juste avant, c'était écouter trois morceaux de The Ethiopians. Alors, tu vas les présenter, Twan Tuscaville.
Alors, on a écouté effectivement de l'album qui s'appelle Twan Tuscaville.
Ça, c'est une compile.
C'est une espèce de compile qui regroupe les morceaux là, de 1966 à 69. C'est ressorti chez, en fait, c'est trop jeune, mais sous licence de un truc qui s'appelle Earmark. C'est ceux qui font en fait les repressages vinyles, quoi. Donc c'est un double LP, on retrouve les titres les plus connus. Et donc on s'est écouté le fameux Twan Tuscaville et le morceau Freeman de cette compilation-là.
Ah oui.
Voilà. Et sur le CD par contre, avec la compilation Sir Gigi and Friends, donc les morceaux de 68 à 73, en fait on s'est écouté... Everything Crush, suivi de sa version, c'était Bigger Boss avec Ansel Collins et Gigi Allstars.
Ok, et ça date de 1968.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'était les artistes de la semaine, c'était bien The Ethiopians. L'émission Redis Back.
Ouais, et puis, comme tu ne l'as pas précisé, le chanteur il est décédé il y a déjà quelques temps et dans la misère.
Oui. C'est vrai qu'on avait entendu ça, ouais. Dans la misère. Comme beaucoup d'artistes jamaïcains, en fait, c'est vrai qu'eux, ils ne se sont pas trop enrichis.
Non.
C'est pour ça qu'il y en a qui continuent.
C'est pour ça qu'ils jouent jusqu'à la mort.
La mort pour un salaire un peu de misère, hein, souvent. Voilà. Et c'est ça, en Angleterre, les concerts, on n'est pas cher payé, sauf les grosses stars. Mais les autres, bon.
Et surtout que pour les Jamaïcains, bon, c'est vrai que la musique. Ça a été un moyen aussi de s'en sortir pour pas mal de gens, mais ils sont pas devenus, comme on disait, ils sont pas devenus non plus ni millionnaires, ni milliardaires.
Non. À peine quelques livres.
Peut-être des gens, des artistes comme Ken Booth, par exemple, qui sont peut-être un petit peu mieux sortis. Voilà.
Oui.
Mais ça reste des exceptions, quoi.
Peut-être Bob Marley avant de mourir.
Oui, ouais, voilà.
Oui. Et quelques années avant de mourir,
effectivement, oui.
Oui, effectivement, mais bien, lui, c'était vraiment une star internationale.
Oui, voilà. Il y a Jimmy Cliff, mais bon, ça, c'est des exceptions. Ouais, voilà. Oui, voilà.
Peter Tosh, pareil, il n'aura pas profité.
Ah non, Peter Tosh, non.
Et
je
pense que ça allait aussi, quoi.
Mais... Ouais, Peter Tosh, je pense qu'il aurait pu avoir une renommée. Son destin a été.
Non,
voilà. Ouais. Non. Juste qu'on commençait à être un petit peu
plus supporté. Tragique. Ouais.
Justement, on fera peut-être un truc spécial Jimmy Cliff. Ce serait Peter vraiment Tosh. Un persona... Jimmy Cliff, pardon, Peter Tosh. Ouais. Excusez-moi. Peter Tosh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, qui est vraiment intéressant. On revient sur le mix. Le mix numéro 1 de l'émission Redis Back, avec des choses un peu plus récentes. Donc toi, t'as reçu quelques singles.
Oui, j'ai reçu...
Dans ta balle.
Ouais, j'ai reçu des EP et des 45 de chez Original Gravity. Donc là, j'en ai emmené qu'un ce soir. J'ai emmené le Reggae Dynamite Volume 6, parce que ça, c'est sa petite série qu'il fait. Donc à chaque fois, 4 titres. Donc il y a Sur la façade, on retrouve donc une reprise de Reggae Dynamite. C'est Max Is on the bah attendez, je vais vous dire ça. Excusez-moi, je mets mes yeux.
Ah bah mince, voilà. Je ne savais pas vu.
Je mets mes yeux. C'est Max Is. Vous voyez, c'était bien ça, on the Minions. Je crois que c'est en fait c'est tous les groupes de, justement du producteur là de. Ça y est, j'ai perdu son nom, de Neil Anderson. C'est un petit peu parce qu'il a, il utilise plein de pseudos, il fait même des groupes un peu, la musique un peu cubaine, etc. Et donc, après, toujours sur la face A, on a une version de Mixer Big Stuff par la chanteuse Donoya Drac. Donc, une version un peu funk soul. Une version, un peu boss reggae de la version funk soul. Et en fait, on sait toujours pas qui est cette chanteuse. On a aucune info. J'espère que c'est pas juste une voix d'ordinateur.
Ouais. Ah bon, non, quand même.
Ah, ça serait le con.
En tout cas, l'accompagnement est vraiment superbe, comme tout ce qu'il fait en fait. Parce que vu qu'il fait tous les instruments, toutes les compos. Et Doriana Drac, on avait déjà passé un single d'elle.
Plusieurs, oui. Voilà, donc on va s'écouter cette version et puis ça sera suivi de d'autres choses. En tout cas, ça sera pas original Gravity.
Oh,
Eh ben, du coup, on va se caler un petit ska.
Oui, parce qu'on vient de s'écouter, en fait, Red Alert.
Exactement, et c'était quand même plus court que... C'était un peu comme un morceau de hardcore. Donc on va s'écouter Dandy Livingstone, justement, tiré d'un des derniers albums qu'il a fait, ça s'appelle The Vault Is Open. On va s'écouter le titre Let's Party Together. Quoique, non, en fait, on va pas s'écouter celui-là. Réflexion faite, j'ai pas envie de faire Party Together. On va s'écouter, j'ai vu qu'il a un message to Rudy 332. Et à ce sujet... Il a fait une petite intervention sur le titre « Message to you, Rudy ». Et en fait, il disait que jusqu'à maintenant, il était vraiment étonné du nombre de gens que ce morceau avait pu toucher quoi, par les paroles. Il dit « Ouais, il y a des gens, ça les a fait changer, puisque comme c'est un message contre la violence. » Et en fait, quand après aussi les specials ont repris, il était vraiment très très content. Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, il dit à chaque fois qu'il joue ce morceau, y a toujours un petit truc, voilà.
Une petite émotion.
Lui-même, il a une petite émotion. Voilà, donc c'était pas mal parce qu'en fait, il présentait un petit peu ses titres.
Oui, c'est vrai. Là, on vous met un petit peu des groupes qu'on a vus en concert dernièrement.
Voilà. Donc, Message to Rudy. Alors, par contre, c'est un son un petit peu digital, cet album, je vous dis ça comme ça.
Stop.
ouais, ça se termine bien, dis donc, tout ça.
Et ça se termine très très bien, puisqu'il s'agit du groupe d'Anarcho-Plouk, comme ils se prennent.
Ouais, c'est vrai.
Toxic Whites, et qui avait joué, on est revenu un petit peu sur des concerts qui sont passés, qui avaient joué à Angers, mercredi dernier.
Mercredi dernier, au garage, avec les amis de Plutôt Mourir. C'était très très bien.
Voilà, et le morceau qu'on s'est écouté, c'est Tourist Farce.
Et puis qui on rejoue aussi, on dira pas où, mais...
Qui on rejoue aussi dans le coin, en
dans le coin. Voilà, voilà. Et on dira merci à qui on sait.
Voilà. Voilà.
Qui on sait, tu vas te reconnaître, on te fait des bises.
Ok. Juste avant Toxic Whites, donc on s'est écouté d'Andy Livingston avec un morceau qui s'appelle A Message to Rudy, c'est ça?
C'est ça. C'était, oui, c'est une version en fait, du coup, c'est Message to Rudy.
Message to Rudy avec.
Il y a un featuring Jack Radix. J'avais l'impression que c'était une voix plutôt féminine, mais bon.
Et c'est surtout une prog un peu digitale.
Je l'avais dit, voilà.
Voilà.
Et ouais, c'est une espèce de compil qu'il a fait avec. Bon, il y a quelques nouveaux titres et des versions. Et par contre, c'est entièrement écrit, produit, arrangé par Dandy Livingston et ça a été enregistré en Jamaïque à Kingston.
Ok, et pour revenir sur Dandy Livingston, en concert, par rapport à d'autres, c'est vrai qu'il est un petit peu plus fatigué, j'ai trouvé. Et bon, il ne chante pas longtemps en fait.
Non, mais par contre, c'était quand même un plaisir de le voir.
Ah oui, c'est toujours un plaisir, puis, mais le show est court.
Ouais, mais bon, bah après, ce qu'il fait, c'est que c'est vrai qu'il se fait des petites pauses et il prend le temps aussi d'expliquer les morceaux. Puis il a pas mal d'humour. Hein,
Ah bah carrément, il y avait beaucoup d'humour.
Donc non, c'était un chouette concert.
Juste avant Dandy Livingston, on était parti du côté toujours de UK et cette fois-ci c'était un single que tu as aussi.
C'est pas un single, c'est un EP.
Ah non, c'est un EP.
C'est un repressage, justement, okay. On en parlait avec Numa. C'est ressorti sur un label qui s'appelle Common People, je savais plus trop d'où ils étaient. Et,
c'est Espagne.
C'est peut-être bien Espagne, ouais. Et je crois que c'est un label qui est plus ou moins actif. Donc c'est un repressage en fait du EP de Red Alert qui s'appelle Third and Final, qui a été sorti initialement en 1980. Et donc on s'est écouté le titre District Boredom, le district de l'ennui, de l'emmerde.
C'est ça.
Ok. Et juste avant Red Alert, alors moi c'était un petit choix un petit peu personnel. Bon, le son était pas top, mais bon, c'était donc un extrait du tout dernier, vraiment le dernier concert du groupe Brigada Flores Magón avec le morceau Incontrôlable. Donc c'était un live à Paris, vendredi dernier. Donc vraiment un morceau qui pour moi représente très bien Julien.
Ouais, puis je voulais rajouter que j'avais une petite pensée justement pour toutes celles et ceux qui sont montés sur scène. Pour jouer Brigada pour la dernière fois pour cet hommage. Et il y en a eu des musiciens et des musiciennes. Donc voilà, je voulais leur passer un petit coucou puis les remercier pour cet hommage que bon, moi j'ai vu qu'en vidéo malheureusement, mais je suis pas le seul. Bref.
Voilà, très bel hommage donc à Julien de la Brigada. Et juste avant ce morceau.
Oui.
On avait commencé la sélecta avec donc tiré de Wake It Dynamite volume 6
ouais,
qui volume vient 6, de sortir en, chez
Original Gravity, c'est ça.
Exactement. On s'est écouté.
Donoya Drake, donc on sait pas. C'est toujours pas qui
on
c'est.
On sait pas qui c'est.
Avec sa version de Mr. Big Stuff, une version plutôt intéressante.
Voilà, Mr. Big Stuff qui est à l'origine chanté par Jill Knight et qui était un morceau féministe des années 1970, je crois.
Et bien, il est 20h47 sur les 101.5 et sur le www.radio-g.fr, c'est l'émission Rudy's Back. Jusqu'à 21h30 et on va laisser le micro enfin à Numa qui est dans les starting blocks.
Ah oui, parce que ça chronique quand même.
Je ne sais pas, mais on va changer un peu de registre.
Ah tout à fait.
Mais justement, c'est pour ça qu'on a mélangé les styles.
Speeder un peu plus. Il va pas y avoir beaucoup de temps mort. Mais voilà, ce soir, je vais vous parler de hardcore punk en France. Parce que, tout simplement, parce que c'est un mouvement dans le punk qui a pris pas mal de temps à arriver en France. En fait, contrairement à des pays comme l'Italie, la Hollande ou l'Allemagne ou l'Angleterre, par exemple, le hardcore va arriver. Enfin, qu'est-ce que j'entends par hardcore ? On va dire une version un peu plus speed du punk, quoi. Mmh. Qui a un peu commencé à voir le jour aux USA en 1978 avec des groupes comme Middle Class et ensuite toute la vague Black Flag et consorts. Je vais pas refaire l'histoire du hardcore, mais voilà, ça va arriver en France que vers 82-83 à peu près, on va dire, on va situer ça vers là.
Et est-ce qu'on peut dire qu'au stade justement le hardcore c'était un peu en réaction au punk que eux trouvaient qui était un peu ouais. petit bourgeois et...
bah, oui, voilà, déjà je pense qu'il y avait une réaction au côté un peu trop rock selon eux du punk. C'était une scène trop rock, un peu trop bourgeoise. Bon, il y a aussi des bourgeois qui ont joué du hardcore, hein.
Bah oui, ça. Oui.
Bah déjà Middle Class s'appelle Middle Class, bah, c'est oui. un des premiers groupes de hardcore qui avait fait le morceau Out of Vogue. C'est un des premiers morceaux avec un rythme rapide comme ça. Mais oui, le hardcore, c'est quand même par essence une réaction à un punk qui est très rock, quoi, dans l'esthétique rock et le rythme musical très qui pouvait paraître très lent. Et...
Oui, parce que c'est mid-tempo, toujours voilà. Le punk. C'est
vrai, le hardcore, c'était un peu l'idée d'envoyer tout ça valser, quoi. Et puis après, bon, pour ce qui est des différences de classe sociale, voilà, il y a eu plusieurs scènes hardcore aussi aux États-Unis. Voilà, il y a la scène de Washington qui était un peu plus un télo, entre guillemets. La scène de New York, un peu plus.
Turbulent.
Pas du front, on va voilà. dire. Mais voilà, on va pas refaire l'histoire. Mais tout ça, toute cette culture-là, elle arrive un peu en France par. En 82-83, et c'est vraiment au départ une clique un peu de parisiens-parisiennes qui va s'intéresser à cette musique-là. Mais on va le voir ensuite dans la chronique que, en fait, le peu de groupes de hardcore qu'il y avait en France, c'était un peu partout. C'était loin d'être un phénomène parisien, en fait. Et pourquoi, en introduction, pourquoi je voulais parler de hardcore en France ? Je voulais aussi parler de hardcore punk parce que, en fait, les groupes dont je vais parler ce soir, souvent, ils sont absents un peu des récits qui sont faits sur le punk ces dernières années, enfin, on va dire ces 10-15 dernières années, avec toutes les anthologies, les livres documentaires ou quoi qui sont sortis sur le punk en France. Des groupes comme I'm Atlos ou des groupes comme ça qui sont pourtant assez mythiques dans la scène. Ils sont quasiment pas cités, on en parle pas trop, en fait. Mais c'est aussi que, bah voilà, aussi quand les gens parlent de punk en France, ils aiment bien parler du rock alternatif. Et du coup, c'est toujours les BRU, voilà, Boucherie Production, voilà, je vous en passe des meilleurs.
Ouais, les Négresses Vertes.
Les Négresses Vertes, la Mano Negra, tout ça. Bah, tout ça que j'ai écouté, ouais. Hein. Ouais. Je critique pas, mais voilà, c'est juste souvent, on a une vision un peu. Uniforme du punk en France, il y a la première vague, il y a Star Shooter, Olivenstein, machin, Metal Urbain, après il y a les BRU, machin, mais le hardcore ou même des vagues de groupes comme The Brigades ou quoi, on n'en parle pas, quoi, ou très peu. Du coup, voilà, je voulais parler un peu de ça, quoi, et aussi rompre un peu avec la vision, on va dire. Du Pind, par exemple, du Punk Is Not Dead, qui est un programme de recherche universitaire sur le punk.
Ah bah oui,
avec lequel
vrai.
On sera pas tout à fait, on n'aura pas la même vision.
On n'a pas la même vision.
On n'a pas trop la même vision de ce qu'est le punk. Bon, c'est pas grave, hein. Non, mais voilà. Mais je voulais un peu sortir de cette vision déjà un peu passéiste. Bon, là, je vais parler du passé, mais voilà, d'un autre passé, quoi. C'est tout le temps les mêmes qui en vont au chapitre et je voulais parler un peu d'autres gens. Et du coup, le hardcore arrive en France vers 82-83, et le contexte en France, c'est que bah, le Parti Socialiste est au pouvoir, mais les chars rouges soviétiques ne sont pas arrivés, n'ont pas défilé sur les Champs-Élysées, comme on le prédisait, et ça n'a pas révolutionné grand chose, hein. Enfin, j'y étais pas, mais apparemment, d'après les témoignages d'époque, les flics étaient toujours des flics.
Tout à fait.
Pour dire, voilà, le minimum. Il y avait toujours pas mal de fachos. Le Pen était en pleine bourre à l'époque. D'ailleurs, c'est un peu dans ces années-là que va naître le Scalp, la section carrément anti-Le Pen. Il y a quelques groupes qui font de lutte armée qui font parler d'eux à cette époque-là, Action Directe, Black War et d'autres.
C'est aussi l'époque où il y a beaucoup de néo-nazis.
Voilà, aussi en France, voilà. Et c'est aussi, quand je dis ce contexte-là, c'est que c'est à prendre en compte, par exemple, quand je vais parler du début du hardcore à Paris, tout ça. Ben voilà, faut prendre conscience que ces jeunes hardcore kids, ben voilà, ils se déplaçaient avec leur look dans le Paris, ils pouvaient leur arriver des bricoles. Et que d'autres, après, ont lutté contre les fachos en face pour que voilà, les gens aient une vie un peu plus simple, avec des looks un peu plus destroy et se fassent pas trop emmerder. Voilà. Et on va commencer cette petite sélection des débuts du hardcore français par un groupe de Mulhouse. Voilà, quand je disais que c'était pas un phénomène parisien, il y avait aussi du hardcore à Mulhouse
bah oui.
En 1984, avec un groupe qui s'appelle Les Vandales. C'est un groupe qui s'est formé en janvier 84 et qui s'est terminé en 86.
Ah ouais, ça n'a pas duré longtemps.
Vous allez voir que les durées de vie des groupes dont je vais vous parler sont assez limitées.
C'est rapide comme la musique.
Ça joue vite, ça joue fort et ça dure pas longtemps, comme les groupes. Et voilà. Alors le morceau que je vais passer, il s'appelle Nucléaire. Bon voilà. Hein. C'est triste, mais c'est encore d'actualité.
Bah oui.
Comme pas mal de titres que je vais passer ce soir, vous allez voir les sujets, c'est
con, curieux quand même.
C'est curieux. C'est voilà, curieux. C'est encore d'actualité. Et en fait, c'est un titre qui est extrait d'une super compile au son un peu brut de décoffrage, mais qui s'appelle Rhapsody en France, qui est un peu la première compile du hardcore en France, avec de Rapt, Final Blast, Chromosome 4, Butcher, Imatlo, c'est les Bloody Fockers, et aussi Gonocoque. Et c'est une compile qui est sortie en cassette à l'époque, sur le label Jungle Up International. Et en fait, ça a été réédité en vinyle pour rendre hommage à Hervé, qui était un des fondateurs de Jungle Up International. Et si vous allez voir sur Discogs, vous verrez que bon, Jungle Up, c'est quand même... C'était le label de hardcore punk français, mais qui a sorti des centaines et des centaines de compiles et de groupes différents et internationaux. Ils ont sorti plusieurs compiles internationales. Et voilà, bah, y a eu Olivier de Crapoulet et un autre label américain qui se sont dit, bah, pour rendre hommage à Hervé de Jungle Up, on va rééditer cette cassette en vinyle en 2024. Ou non, c'est sorti l'année dernière, en 2023 plutôt. Mais voilà, Hervé de Jungle Up qui est mort en 2020. Et je parle compile aussi parce que les compilations dans les débuts du hardcore, c'est quelque chose d'hyper important pour choper et connaître des groupes. Bah voilà, les gens, ils sont à Mulhouse, admettons, ou à Pontarlier, comme avec Final Blast, ou dans des petites villes comme ça. Bah, il se passe pas grand chose, et pour découvrir des groupes de hardcore en France dans ces années-là, bah faut toper des cassettes qui se refilent sous le manteau au lycée ou voilà. Faut essayer d'aller chercher l'information quoi. Et les compilations, c'est un super moyen de connaissance de groupe quoi.
Et ça on pouvait retrouver ça dans tous les styles.
Ouais. Oui. Ouais, oh, carrément.
Carrément. Jusqu'à aujourd'hui, hein, quand même.
Oui, 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 carrément. Mais c'est.
Non, mais je veux dire, comme
c'est une caractéristique.
Comme dit Numa, c'est. Ouais, c'est une caractéristique de l'époque. C'est vrai que si on voulait découvrir des groupes, il y avait énormément
y avait
de groupes.
Voilà.
Et dans le punk et hardcore international, dans début des années 80 jusqu'à maintenant, c'était quand même une donnée hyper importante de faire des compilations de groupes. Et il y a du coup plein de compilations mythiques maintenant, ces années-là. Et c'est aussi, je parlais de ça parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça se fait un peu moins dans le punk des compilations internationales comme ça, ou de scènes locales. Du coup, Les Vandales de Mulhouse, avec le morceau Nucléaire. Et ensuite, on enchaînera avec Final Blast, qui était un groupe de Pontarlier, qui a duré de, qui est créé en 83 et se termine en 86. Voilà, ça ne dure pas très longtemps.
Et Pontarlier, c'est où? C'est dans l'Est, je crois.
C'est l'Est de la France.
Oui, c'est ça.
Je m'étais renseigné, c'est, oui, c'est un, une petite ville de l'Est de la France, okay, avec des petites industries, mais qui ont pas, qui sont un peu écroulées dans les années 90, comme pas mal d'endroits. Et Final Blast, ils sont un peu connus en France aussi pour avoir fait plusieurs splits, dont un avec Rapt, dont je vais vous parler après, et avec Paria Punk aussi. Voilà, c'est un CD qui a pas mal tourné, Final Blast, Paria Punk. Et c'est, on s'écoutera Vendeur de Mort, qui est aussi sur la compile Rhapsody en France dont je parlais, mais là on va s'écouter plus Vendeur de Mort, mais sur la compile 1984 The Second. C'est une autre compilation mythique des années 80 du label New Wave, qui était un label grosse distribution punk dans les années parisiens, avec un label assez mythique de ces années-là. Et voilà, encore une compilation internationale ce coup-là, avec plein de groupes de partout. Du coup, on s'écoute Les Vandales avec Nucléaire, et ensuite Final Blast avec Vendeur de Mort.
We'll be right back.
c'était Final Blast avec le morceau Vendeur de Mort issu de la compile 1994 The Second, voilà, compile mythique du punk hardcore international sorti par le label New Wave. Et juste avant, on s'est écouté Les Vandales avec le morceau Nucléaire, sorti en janvier 84. Non, le groupe s'est créé en janvier 84. Je suis perdu dans mes notes. Et sorti sur la compile Rhapsody en France, voilà, par Jungle Hop International. On va enchaîner avec, bon, un groupe un peu plus connu, ce coup-là, qui s'appelle I'm Atlos. Bon, voilà, c'est. I'm Atlos, c'est un peu un des groupes qui a exporté le hardcore punk français en dehors de France. Ils ont pas mal tourné en Hollande, Allemagne, je crois même qu'ils sont allés en Italie, ça je sais plus. Mais bon, ils ont un peu bougé, quoi. Contrairement à pas mal de groupes que je vais passer ce soir, qui seront restés qu'un épiphénomène.
Oui, mais ils n'ont pas duré longtemps, donc ils n'ont pas eu le temps de bouger.
Non, non. Mais I'm Atlos, pour le coup, ils ont duré de 1983 à 88. Et après I'm Atlos, je sais plus quel membre d'I'm Atlos a fait, je sais plus si c'est le guitariste, qui a fait un groupe qui s'appelle Tears of a Doll, qui est pas mal du tout aussi. Une espèce de rock avec des accents un peu post-punk, voire rock gothique, mais pas mal du tout.
Ils étaient originaires d'où
Paris. Ah, oui. Paris. Okay. Je sais plus de quelle banlieue ou quoi, mais I'm Atlos, il venait de Paris. Si je dis pas de conneries, oui, c'était un groupe parisien.
On va dire d'Île-de-France.
Ouais. D'Île-de-France, ouais, voilà.
C'est tellement grand que.
Ouais, ouais. C'est tellement grand, ouais. Et du coup, voilà, I'm Atlos, comme je disais, ils ont pas mal tourné en Allemagne, et du coup, je pense que c'est un peu le groupe qui représente ce qui était un peu le hardcore en France. Après, I'm Atlos, ils ont une patte particulière. C'est que, bah, déjà, ils ont un nom en allemand, I'm Atlos, ce qui veut dire sans patrie, il me semble. Mais I'm At, c'est pas vraiment la patrie, c'est un peu le chez-soi, sans chez-soi, on va dire. Ouais. Et en fait, I'm Atlos, ils avaient cette particularité déjà de jouer hyper rapidement. C'est un groupe, c'est très très speed, mais en même temps, il peut y avoir des morceaux très très speed, mais en même temps des morceaux assez mélodiques, avec des lignes de basse vraiment chiadées, quoi. Ce sera moins primitif que ce qu'on a écouté avant, que moi j'aime bien, mais voilà. Et en fait, I'm Atlos, l'autre particularité, c'est qu'ils chantaient dans toutes les langues. Enfin, ils chantaient... ils ont un morceau en finnois, ils ont un morceau en portugais... En espagnol.
Ah ouais, parce qu'ils sont sans patrie.
En anglais, pas mal. Ils ont des morceaux en français. Enfin, c'est marrant, quoi. Bon, ils ont pas toujours un accent de fou sur toutes les langues, mais non, c'est normal. Mais bon,
ouais.
Mais voilà, c'était un peu l'effort qu'ils faisaient, quoi, d'être un. Bah, les interviews que j'ai lues d'eux, c'était vraiment une volonté d'être un groupe internationaliste, du coup, de chanter dans toutes les langues.
Ce qui était plutôt intéressant dans la
démarche.
D'essayer
de connecter à tout le monde. Alors voilà, comme je parlais dans l'intro, faut imaginer ce groupe-là qui fait du hardcore punk et qui chante dans toutes les langues, dans le milieu rock alterno, voire scène chaos en France un peu beauf. Voilà, faut imaginer I'm Atlos au milieu de tout ça. C'était un peu un électron libre, quoi. ça parlait pas à tout le monde. Et voilà. Et du coup, le morceau qu'on va s'écouter, c'est un morceau assez connu qui s'appelle Fasciosfora, qui est un morceau contre les fascistes, voilà.
C'est toujours d'actualité.
Ouais, voilà. c'est toujours d'actualité.
Ah, bah, les années 80, on est en plein dedans.
Et c'est issu de l'album Devlag, qui est en fait un album d'I'm Atlos, mais qui est en split avec un autre groupe de hardcore que je passerai pas ce soir, qui s'appelle Chromosome 4. Que bah, j'aime bien, mais c'est un peu plus on va dire que c'est les paroles un peu plus concon fun, quoi. Chromosome 4, du coup je trouvais ça un peu moins intéressant de passer ça que d'autres groupes, mais j'en aurais bien passé aussi. Mais voilà, c'était sorti sur un split qui était paru chez Jungle Hop International. Et après I'm Atlos, on va s'écouter un autre groupe qui a quand même fait parler pas mal en Europe à l'époque, et qui s'appelle Rapt. Et en fait, Rapt, c'était un groupe de Vernon, Et en fait, Rapt est assez connu parce que leur chanteur avait un label qui s'appelait Déflagration. Si je relis bien mes notes, c'est sûr. Parce que voilà, le livret de la compile Rhapsody est très fourni. Et il y a des interviews d'époque. Et on apprend que le chanteur de Rapt avait un label de cassettes qui s'appelait Déflagration. Et sortait beaucoup, beaucoup de compilations et de groupes internationaux. Et c'est sans doute pour ça que Rapt voilà, a été connu un peu à l'étranger, parce que bon, ils n'ont pas beaucoup tourné non plus. Hein. Faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, par exemple, leur discographie, elle a été ressortie par un label italien qui s'appelle FOAD. Et moi, c'est un groupe que, quand on tourne avec Bakounine, par exemple, dans les circuits un peu punk hardcore, 10 bits à l'étranger, on nous en parle pas mal de Rapt. Et on va s'écouter un morceau, un de leurs plus connus, qui s'appelle Torture, qui est un morceau sur la torture, voilà. Et qui était aussi sur la compile 1984 The Second, mais là on va l'écouter sur la compile Rhapsody. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, si vous voulez écouter plus amplement Rapt, il y a cette discographie qui est sortie chez FOAD Records en Italie. Et I'm at Loss, il y a une discographie CD qui était sortie avec Luc de Ratbone Records, Luc Gasmas Terror. Je ne sais pas s'il lui en reste des copies CD, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu de réédition d'I'm at Loss autrement, à part peut-être le 45 tours qui avait été réédité. Mais voilà. Du coup, on s'écoute I'm at Loss avec le morceau, malheureusement encore d'actualité, Fascious Fola. Et juste après, on s'écoute Torture du groupe Rapt. C'était rapide.
Ouais, c'était rapide.
Vous m'avez pas vu, mais j'ai fait de la gymnastique entre temps pour caler les disques. Parce que voilà, avec le hardcore, ça va trop vite.
Ça va très très vite. Et puis on redit qu'on est bien dans l'émission.
Ouais, il faut repréciser.
Reprécisons.
Vous n'êtes voilà, pas toujours habitué à ça, à Rudy's Back, mais bon, voilà.
Mais on écoute un peu de tout, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait hors antenne. Du et moment que les gens ont des choses à dire.
Du coup, on s'est écouté le morceau Torture de Rapt, sorti en 85. Et juste avant ça, on s'est écouté le morceau Contre les fascistes, Fasciosfora, du groupe I'm Atlos, sorti en 86 sur l'album Devlag, en split avec Chromosome 4. Et je voulais en parler de ça aussi pour les gens qui voudront aller un peu plus loin que cette brève introduction que je fais ce soir. Il y a un très bon article sur les débuts du hardcore en France de 83-90 qui s'appelle « Hardcore en France, une rencontre difficile » dans le zine « The Outsiders ». Et aussi... Je voulais parler du fanzine Up the Zines, le numéro 24. Il y a une interview de Vincent et Philippe, qui des deux personnes qui faisaient un zine qui s'appelait Hardcore Land et dans ces années-là. Et c'est une interview qui m'a pas mal appris sur les débuts du hardcore en France et sur le fanzine Hardcore en France. Parce que comme je disais dans l'intro, voilà, il y a beaucoup de littérature. Beaucoup de choses qui sortent sur le punk en France, sur les années 80, le rock alterno, voire même la Oi ou d'autres trucs. Mais pour ce qui est des musiques un peu plus extrêmes dans le punk, ça en parle pas trop. Et c'est très intéressant. En fait, eux, ils nous parlent pas mal de la scène parisienne, parce que c'est ce qu'ils ont vécu, eux. C'est des gens qui jouaient notamment dans Krull et dans Zoï, que je vais passer juste après. Et mais c'est hyper intéressant cette interview des gens de Hardcore Land. Et c'était pas le seul fanzine hardcore. Il y avait aussi à Nantes, il y avait un zine qui s'appelait Seine Plongeon, comme le stage diving. Mm-hmm. Voilà. Et voilà, on se passe des vinyles.
Voilà. Et fou. Ouais. Et on précise que les fanzines sont vraiment.
C'était la pierre angulaire. Voilà. Comme je parlais des compilations, mais pour les gens les plus jeunes qui nous écoutent ce soir, faut s'imaginer la France début des années 80, bah, pour s'échanger des informations sur le punk ou d'autres sujets, bah, les fanzines, c'est la pierre angulaire, quoi. C'est comme ça qu'on trouve les infos.
Et puis il y avait des listes, des fois il fallait
envoyer. Des listes de distribution, envoyer des timbres, voir les laver pour.
Ou des trucs aussi collés sur les murs.
Non, c'est pas ça.
Il y avait des zines sur les murs, collés sur les murs.
Oui, ouais. Aussi, ouais. En mode d'Azibao.
Et voilà, fallait aimer la correspondance à l'époque, quoi. Fallait se démener pour les gens qui distribuaient. Les gens qui faisaient des groupes pour se faire connaître et les gens qui voulaient écouter, il fallait vraiment chercher. L'information ne venait pas tout cru à nous. C'est...
Bah, aujourd'hui non plus, hein. Faut chercher. Hein,
c'est après, ce que je trouve rassurant aujourd'hui en aparté, mais c'est que je trouve qu'il y a un renouveau du fanzina en France.
Oui, j'allais te le dire.
C'est ce que je voulais dire.
Comparé à il y a 5-6 ans, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de titres qui sortent, il y a plus de choses, quoi. Et encore, moi, je suis pas au courant de tout, vu que je suis pas sur les réseaux sociaux.
Je pense aussi qu'il y a pas mal de gens qui ont soit déjà fait des fanzines,
voilà,
ou soit d'autres qui en ont un peu marre du format numérique et tout
oui,
ça.
Oui, aussi, ouais.
Et du coup,
les gens se lassent aussi.
Ouais, c'est ça.
Mais ça revient. Et c'est pas mal.
Et le fanzine, quand tu l'as à la maison, ce qui est bien, c'est que tu peux lire 2-3 trucs, 2-3 chroniques, une interview. Tu peux te laisser traîner ça, puis genre 15 jours plus tard, t'es et hop, tu te replonges
c'est
dedans.
C'est ça l'intérêt,
tu fais un. Et finalement, tu lis tout.
Ouais.
C'est ça. Et du coup, voilà, pour continuer cette chronique, on va s'écouter un autre groupe qui a marqué, peut-être à l'échelle même européenne et internationale, Scraps. Pourquoi je dis qu'ils ont marqué? C'est aussi. C'est un album déjà. C'est un groupe qui existe encore aujourd'hui, qui avait splitté, mais puis s'était reformé. Ils existent encore aujourd'hui. Ils ont sorti un album il y a vraiment pas longtemps, là, il y a quelques mois, chez Refuse Records, le label polonais. Et ils ont sorti 3 albums en tout. Il y avait plusieurs EP, et ensuite ils avaient sorti un album qui s'appelait Wrapped Up in the Society. Et c'est un groupe qui s'est créé en 83 à Boulogne-sur-Mer.
C'est un groupe du Nord, je crois.
Ouais, du Nord ça, et ouais. Boulogne. Et Boulogne et Lille. Et en fait, le chanteur David, ensuite, il a fondé un groupe qui a marqué dans la scène straight edge et la scène straight edge bien politique et la scène hardcore européenne qui s'appelait Nations on Fire, qui est un groupe assez connu des années 90 et 2000. Et en fait, Scraps, voilà pourquoi j'en passe aussi, parce que ben on a joué il y a pas si longtemps avec eux et ça faisait bien plaisir de voir des gens un peu plus âgés mais qui ont toujours un discours hyper posi en concert, hyper positif avec la banane et qui jouent pas sur leur longévité ou genre sur leur statut de je sais pas quoi. Juste ils s'en foutent quoi, juste ils font, ils envoient et c'était très très bien. Très bonne ambiance. Et en fait, moi je vais vous passer un morceau qui s'appelle Holocaust Animal, qui parle bien évidemment de la cause des animaux, de la libération animale. Et bah voilà, faut imaginer ça en France, comme je disais pour I'm Atlos et tout ça tout à l'heure. Faut imaginer un groupe qui balance une musique hyper extrême dans ces années-là avec des paroles bah, sur la vivisection ou sur le végétarisme.
Mais c'est quand même.
Bon,
c'est...
ça faisait non, pas.
C'est quand même à l'époque, il y a pas mal de groupes hein, comme ça.
Oui, il y a pas mal de groupes.
Mais c'est pas même... forcément dans le hardcore.
Ouais, mais il y avait quand même beaucoup dans. Par exemple, tu as parlé des straight edge. C'était quand même. On retrouvait beaucoup ça dans le hardcore.
Oui, voilà, ouais. Et bah pour le coup, Scraps, ils étaient pas straight edge au début. Je crois que certains sont plus devenus après, quoi. Mais voilà, c'est un morceau qui était sur un EP, mais là c'est sur une compilation qui s'appelle Noise Not Music. Bah voilà, comme son nom l'indique, du bruit pas de la musique, qui est sorti chez le label polonais, un label straight edge pour le coup, qui s'appelle Refuse Records, qui est un label mythique quoi du punk hardcore en Pologne et au niveau international. Et c'est un super objet, il y a un super livret, vous le voyez pas là, mais je le feuillette. Et il y a des très belles photos, il y a tous les flyers d'époque, tous les paroles et des interviews. Et c'est hyper intéressant si vous avez l'occasion de choper ça. Si vous aimez bien le punk hardcore, bien, bien bourrin. Et ensuite, on s'écoutera Zoï, qui était un groupe du coup avec les gens du fanzine précité qui s'appelait Hardcore Land. Et du coup, Zoï, c'était un groupe de Paris qui a dû faire 6-7 morceaux. Et c'est un morceau issu d'une autre compile Rhapsody. Et qui est aussi paru sur un split avec un autre groupe que j'aurais pas le temps de passer, qui s'appelle Les Gnomes, qui était aussi un groupe de punk hardcore parisien. Et ce morceau, il s'appelle Psaume 1, et ça ressemble un peu plus à ce qui se faisait, par exemple, du côté de Bristol, Chaos UK, tous ces groupes-là, du hardcore bien vénère. Et pour une fois, c'est une chanteuse. Voilà, j'en ai pas beaucoup passé dans cette sélection, mais juste parce qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes. Dans Scraps, il y avait une bassiste, mais voilà, c'était quand même comme le punk en France à cette époque-là, globalement très dominé par la gente masculine.
Et ça n'a pas trop changé. Voilà. C'est une parenthèse.
Non, c'est, malheureusement non. Mais du coup, voilà, on s'écoute Scraps de Lille, enfin Boulogne-sur-Mer, Lille, avec Holocaust Animal, et après Zoï avec Psaume 1. Zoï, un groupe de punk hardcore parisien des années 80 avec le morceau Psaume 1, et c'était précédé de des gens de Lille et Boulogne-sur-Mer, Scraps avec le morceau Holocaust Animal. Et voilà, juste pour finir cette petite chronique, dire que il y avait plein d'autres groupes que j'aurais aimé passer ce soir, mais que bah, voilà, on a un temps imparti, les Gnomes, Krull, Chromosome 4, Sherwood Pogo, Gonocoque, Butcher, Carnage, SS Kids, il y en avait tellement aussi. Et voilà. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir plus.
Oui, ben merci, Nana. On a appris, voilà.
Bah, on a appris au TGV du hardcore, là.
Réécouter des choses qu'on n'avait pas écoutées depuis longtemps.
Je crois que tu avais. Donc, on est toujours sur les 100.5, c'est Radio G, c'est l'émission Rodisback.
Oui.
Tu avais une info à nous passer.
Oui, j'avais une petite annonce. Demain, au Nuit Bleue, au 21 rue Maillet, à 19h30, il y a l'écrivaine Anne Steiner, qui est aussi historienne de Paris, qui vient présenter un livre qui s'appelle Le Temps des Révoltes, qui est paru aux éditions L'Échappée, qui est en gros une histoire des luttes sociales et du mouvement ouvrier à travers les cartes postales. Voilà. Et elle vient nous présenter ça à 19h30 demain. Et là, j'ai l'impression qu'on va s'écouter un petit disque qui vient de sortir.
Oui, carrément.
Un disque de Zone 57, qui était un groupe de Sunderland. Et c'est un disque inédit, parce qu'à la base, c'était une cassette, une démo cassette. Et Franck du fanzine Béra de Bordeaux a eu la bonne idée de ressortir ça des décombres en vinyle. Et c'est très, très bien.
Donc, on va découvrir ça maintenant.
On va découvrir voilà ça.
Et c'est aussi accompagné de fanzine.
Oui, voilà. Enfin, bras... on peut commander ouais le fanzine okay en même temps.
Et donc, le bras, c'est le numéro combien qui vient de sortir alors là?
Je ne sais plus, le numéro 13.
Combien? Je ne sais plus. Ouais, le bras qui existe depuis longtemps, dis donc, ouais, sur Bordeaux. Ça commence à faire quelques temps.
Ouais, qui avait recommencé parce qu'en fait, ils avaient un peu arrêté.
Ils avaient arrêté.
T'étais pas loin, numéro 14.
Ah ouais, ah, tu
numéro
vois
14, le bras, fanzine du côté de Bordeaux. D'ailleurs, salut Bordeaux.
Ouais, salut Franck. Ouais.
Salut Zouk Machine.
Et puis tous les autres. Bref.
Ok, et ben c'était l'émission Disback. Donc on se quitte avec du coup le titre, c'est They Don't Care. Ils en ont rien à, ils ont
ils
pas
ont
peur,
rien
ils
à foutre.
Foutre voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bah on aura comme invité, on aura du Rock et des Vaches qui nous présenteront leur festival dans un autre style.
Dans ouais, un autre style.
Moins hardcore, ça.
Ça sera un petit peu moins hardcore.
Ça sera moins hardcore, mais ce sera tout aussi bien.
Ok. Et ben salut, bye bye. On se dit à la semaine prochaine et on n'oublie pas la fête et la lutte.
Aussi.